Vous avez droit d'asile ?
Mais pas la liberté. Les gitans jamais nous durent derrière les murs.
Mais vous êtes différente des autres gitans. Eux sont des démons.
Qui t'a dit ça ?
Si la guerre du Péloponnèse nous apparaît encore aujourd'hui avec un tel relief, c'est pour une bonne part parce qu'elle a eu pour historien Thucydide. Il a vécu toute cette guerre. Il a commencé à en préparer l'histoire dès le début des hostilités.
Radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en direct pour un nouvel épisode de Transhistorien. Au programme aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure avec Marie. Bonjour Marie.
Bonjour Solène. Et oui, on vous emmènera à la rencontre des Tziganes, c'est à retrouver tout de suite dans Transhistorien.
Pierre nous accompagnera tout au long de l'émission et il nous fera une grande leçon d'histoire par la connerie. Bonjour Pierre.
Bonjour Solène.
Et on tient à te rendre hommage pour être arrivé in extremis comme ça. Pierre vient exprès de Saint-Etienne pour faire Transhistorien, messieurs, dames.
Voilà, alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Je vais parler de la petite histoire d'Hyperbolos.
Petite pépite d'histoire par la connerie à suivre tout à l'heure.
Bonne écoute, chers auditeurs et auditrices, et on commence sans plus tarder.
Alors, comme Solène vous le présentait en introduction, on va aujourd'hui remettre les pendules à l'heure sur une communauté bien particulière, une communauté qui longtemps a été dans l'angle mort de la recherche historique. Nous voulons bien sûr parler des Tziganes.
Oui Marie, et globalement, c'est une communauté encore très mal connue dans nos sociétés contemporaines. On fait beaucoup de confusion et d'amalgames sur les Tziganes, notamment dans les discours médiatiques et politiques. On dit souvent qu'ils sont en marge de la société, qu'ils ne veulent pas s'intégrer, etc. Alors c'est cette idée de marginalité que nous voudrions questionner avec vous.
Exactement. On va examiner les particularités de ce groupe pour voir dans quelle mesure on a fait de ces particularités des causes d'exclusion. D'abord, il faut avoir conscience que les Tziganes ne sont pas des migrants comme les autres. Certains ne sont même pas des migrants, puisqu'ils sont implantés depuis plusieurs générations dans le même pays et se sont sédentarisés.
Attends, on va parler de qui là ? Parce que, bon, moi j'ai entendu parler des Gitans, des Roms, des Bohémiens, des Tziganes même, mais c'est pas tous les mêmes quand même.
Alors, en fait, Roms et Gitans désignent différents groupes. Le terme Tzigane désigne cette communauté de façon globale. Alors, par exemple, on parle plutôt de Gitans en Espagne et dans le sud de la France, mais dans le Piémont ou encore en Alsace, on les appelle plutôt Sinti. Au XIXe siècle, des populations Tziganes migrent jusque dans les pays scandinaves et en Angleterre.
Du coup, grosso modo, on a autant de groupes Tziganes que de clans.
Voilà. Et ces clans sont souvent spécialisés dans une activité pour laquelle ils sont connus dans la société qui les accueille. Alors par exemple, les Boyaches sont des montreurs d'ours, les Aorari sont des orpailleurs. Souvent, ces activités sont itinérantes. Alors beaucoup de Tziganes sont forains, d'autres travaillent l'osier ou proposent du rempaillage, etc.
Mais on va peut-être d'abord revenir en arrière et vous parler de leurs origines. Les Tziganes ont une origine ethnique commune, ils viennent d'Inde, mais c'est peut-être leur seul vrai point commun. Il ne faut pas du tout imaginer une population homogène. Les communautés Tziganes sont très diverses, tant au plan social qu'au plan culturel. Et ça tient au fait qu'on n'a pas un mouvement de migration uniforme, mais bien plusieurs mouvements migratoires, dans plusieurs directions et échelonnés sur plusieurs siècles.
Dans cette histoire migratoire assez complexe à retracer, tu peux peut-être nous parler d'un événement majeur, la chute de Constantinople.
Oui, alors cette chute, c'est le moment où les Turcs ottomans prennent la capitale de l'Empire byzantin et mettent fin à cet empire. On est en 1453. Avec cet effondrement politique, beaucoup de populations chrétiennes fuient vers l'Occident et les Tziganes font partie de ce grand mouvement migratoire. Ensuite, les sources nous apprennent qu'on les retrouve dans les Balkans, dans les cités du sud de l'Italie, en Sicile, etc.
À l'époque, on les désigne abusivement sous l'appellation d'Égyptiens, parce qu'ils viennent globalement d'Orient. On sait qu'ils se déplacent en groupe sur les routes, par groupe de plusieurs dizaines de personnes. En fait, contrairement aux clichés, ils sont accueillis avec une certaine bienveillance dans les villes où ils s'arrêtent. Les seigneurs, les échevins, les prélats les protègent.
Ou plus simplement, ils peuvent aussi servir de divertissement, peuvent servir à divertir les habitants par leur spectacle.
Alors, au fil des siècles, une certaine image des Tziganes se forme en Europe. On les associe à la pratique de la magie et de la chiromancie. Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui ne sont pas tous clients de Madame Irma, alors sachez que la chiromancie est l'art de lire l'avenir dans les lignes de la main.
Pour plus de renseignements, pour l'horoscope et le tarot, s'adresser à Anastasia, notre astrologue diplômée, entendue tout à l'heure dans En ce moment.
Merci pour cette précision majeure, Marie. Alors, blague à part, les historiens se sont récemment intéressés aux représentations des tziganes dans les enluminures, les tableaux, les gravures, etc.
Voilà, et en fait, on constate qu'à la fin du Moyen-Âge, on a un vrai mythe qui s'est forgé. C'est le mythe de la belle égyptienne, une devineresse mystérieuse comme on peut la retrouver dans la littérature espagnole ou la peinture italienne. Dans tous les cas, ce qui ressort, c'est l'image d'un Orient exotique, féminin, séduisant et surtout complètement fantasmé. Une image qui est arrivée jusqu'au XXIe siècle, comme on l'entend dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, lancée en 1998.
Voilà, c'était Hélène Ségara. Alors, en tout cas, à la fin du Moyen-Âge, les tziganes ne sont pas systématiquement vus comme des marginaux ou des nomades.
Tout à fait, ils sont intégrés à la vie de la cité. Les tziganes sont comme Clément Nicole, ils sont fondamentalement urbains. Ils ont leur propre quartier et entretiennent des liens de sociabilité forts avec les autres composantes de la société. Parfois, ils ont même obtenu la citoyenneté locale. Il n'est pas rare que ces tziganes deviennent la garde personnelle de la noblesse, ce qui montre qu'il y a des liens de confiance très forts entre cette noblesse et ceux qu'on appelle les bohémiens.
Alors, la situation commence à se dégrader au XVIe siècle. En effet, les tziganes sont chrétiens, mais de rite orthodoxe ou byzantin. Donc, ils arrivent dans des régions catholiques. Leur religion accentue leurs différences et donc leur marginalité. En plus, la papauté voit d'un mauvais œil ces gens qu'on associe à la magie et à la divination. La répression, elle est très forte dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Des tziganes sont déportés ou encore envoyés aux galères.
Parallèlement à ça, l'Europe du XVIe est en pleine chasse aux sorcières, mais curieusement, les diseuses de bonne aventure tziganes ne sont pas poursuivies.
Alors, le contexte de répression reste fort. En France, le règne de Louis XIV est marqué par des brutalités contre les tziganes. En Espagne, c'est plutôt au XVIIIe. Les lettrés espagnols refusent tout simplement l'existence d'une langue et d'une culture gitane. Ils produisent toute une littérature anti-gitan qui perdure jusqu'au XIXe.
Ah ouais, c'est chaud quand même. Le XIXe, c'est quand même le siècle des états-nations, nationalisme, patati patata. Du coup, ils deviennent quoi les tziganes ?
Eh bien, à l'époque, ils sont intégrés aux communautés nationales. Un peu comme si chaque État avait sa petite communauté, disons. Les tziganes s'implantent plus fortement dans un territoire délimité. En gros, quand ils sont encore mobiles, leur mobilité a lieu à l'intérieur des frontières du pays dont ils dépendent.
C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les choses se compliquent, jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui, et tous les clichés qui vont avec.
Vous avez quelques soucis, je crois, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et... disons odorante, bref, ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg.
Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous venez d'entendre les propos ultra-racistes de Jean-Marie Le Pen. On vous épargne ça, on ne vous inflige pas ça plus longtemps. Alors, cette image des tziganes là, qu'il véhicule, il faut savoir qu'elle est historiquement construite. Le 19e, c'est le moment où les tziganes sont constitués en figure repoussoire, un peu comme des étrangers, des vagabonds. Ils sont craints, ils sont rejetés parce qu'on ne contrôle pas leurs déplacements. Et au début du 20e, ces populations sont sous surveillance. On identifie les familles, on crée des réglementations pour limiter leurs déplacements, surtout aux frontières. En même temps, ils fascinent un peu et des linguistes s'intéressent à leur langue.
Alors oui, il y a des théories qui excluent peu à peu les tziganes. Alors dans les années 30 en Allemagne, les tziganes sont internés, en France également, mais c'est plutôt pour des motifs administratifs que raciaux. On veut les séparer de la communauté parce qu'on les considère comme des asociaux.
Voilà, et de l'internement, on glisse très vite à des choses encore pires sous les nazis.
Oui, alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tziganes sont déportés en camp de concentration ou même en camp d'extermination. Alors la production historiographique est devenue un peu plus abondante dans les années 90, ce qui est très récent tout de même.
Oui, voilà, production extrêmement récente, c'est un sacré retard quand on estime que les nazis ont quand même exterminé jusqu'à un quart des tziganes européens.
Ces crimes se poursuivent sous les dictatures fascistes d'Europe de l'Est, à la même période dans les années 40, en Roumanie sous Antonescu, ou en Croatie encore, sous les Oustaki.
Voilà. Donc ce qu'on a essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que la marginalité soi-disant tzigane n'est pas le produit d'un mode de vie fondamentalement différent de celui du reste de la société, mais c'est une communauté qui a bien des traits culturels spécifiques, mais différents d'une communauté à l'autre. Mais leur marginalité est surtout le produit de phénomènes historiques, à savoir la construction des États-nations et la montée des nationalismes. Donc merci d'avoir suivi ce numéro des pendules à l'heure. Et maintenant, il est temps de retrouver Pierre pour sa leçon d'histoire par la connerie.
Bonsoir à vous. Après cette belle histoire des tziganes racontée avec brio par Solène et Marie, place à la connerie. Cette fois-ci, je vous amène en Grèce antique, sur les 12 pentes du Pnyx, une des collines d'Athènes où se déroulait... quoi, les historiens ?
L'Ecclésia !
Exactement, c'est l'Ecclésia en effet, soit l'assemblée des citoyens d'Athènes dont le pouvoir était plutôt important. Mais revenons-en à la petite anecdote. Nous sommes en -417, en pleine guerre du Péloponnèse. Pour vous donner une vague idée, Périclès est mort depuis 12 ans. Une paix fragile maintient Sparte et Athènes dans une espèce de statu quo depuis la paix de Nicias signée en -421. Les conflits politiques sont nombreux au sein de l'élite athénienne. Nicias et Alcibiade se disputent sur la politique à mener contre Sparte. Guerre ou paix ? C'est là qu'entre notre protagoniste, Hyperbolos. Et vous allez voir que ce nom lui convient parfaitement. Pensant pouvoir se faire une place dans la politique athénienne, Hyperbolos a la superbe idée de proposer l'ostracisme de Nicias ou d'Alcibiade à l'Ecclésia. Le vote se fait donc et, oh surprise, avec quasiment l'intégralité des suffrages exprimés, c'est Hyperbolos qui finit ostracisé. En effet, les partisans de Nicias et d'Alcibiade se sont rapidement alliés pour se débarrasser du trublion dont les dramaturges et historiens grecs n'ont de cesse de se moquer. Voilà donc la petite histoire d'Hyperbolos, ostracisé par le vote qu'il avait proposé contre ses deux rivaux. Alors, vous connaissez la pratique de l'histoire par la connerie, maintenant il faut se demander ce que l'on peut tirer de cette anecdote. Déjà, voyons ce que c'est que l'ostracisme. C'est une pratique démocratique qui consiste à exiler n'importe quel citoyen d'Athènes jugé néfaste au bien de la cité pendant une période de 10 ans. Ce n'est pas une véritable condamnation qui retirerait ses droits et biens, mais juste un acte consistant à éloigner cette personne de la vie politique en lui interdisant l'accès à la ville, voire à l'Attique. Les sources divergent sur le résultat du vote, mais il semble qu'il fallait 6000 suffrages exprimés pour la même personne pour que celle-ci soit effectivement ostracisée. Cette pratique est née au début du 5e siècle avant notre ère et semble s'être éteinte en -417, sûrement après cette petite anecdote que je vous ai racontée justement. Cette dernière n'est pas si anodine que ça du coup. En effet, au-delà de la simple anecdote humoristique qui nous montre un arriviste essayer de s'attaquer à des gros poissons pour finir pris à son propre jeu, on est ici face à un exemple des problèmes inhérents au système démocratique athénien qui mena à la fin catastrophique de la guerre du Péloponnèse en 404. -404 bien sûr, je tiens à le préciser, on sait jamais. Deux ennemis politiques ayant des points de vue totalement différents sur une question aussi cruciale que la guerre ou la paix se sont alliés pour virer un petit politicien de nul qui souhaitait à la fois faire trancher cette question en laissant à la cité le choix d'ostraciser le politicien qui ne correspondait plus à la volonté de la majorité. Et aussi, par cet ostracisme, il voulait se débarrasser, si possible, d'Alcibiade, son rival politique, à la tête de la faction rurale. On comprend un peu mieux alors l'idée dans la tête d'Hyperbolos. Mais les conséquences de sa proposition de vote démontrent que la politique interne est parfois plus importante que l'avenir de la cité même, et que la politique à Athènes se faisait vraiment par faction, soutenant une personnalité plus ou moins adulée par ses partisans. Pour preuve, la pseudo-dictature de Périclès quelques années avant cette anecdote. Comme quoi, en 2500 ans, ce qu'on appelle la démocratie n'a pas tellement changé et subit les mêmes problèmes de populisme. Voilà, c'est tout pour moi. La régie menace de m'ostraciser à mon tour et je ne peux que me féliciter qu'il ne soit pas 6000 tassés derrière la console. Et je vous laisse donc avec comme exercice de me trouver quelques petites pépites anecdotiques qui, pardon, me les envoyer et je pourrai en parler la prochaine fois.
Merci Solène, Pierre et Marie pour ce retour sur les tziganes aussi intéressant que salutaire par les temps qui courent. Il est 8h10, restez avec nous sur Transistor pour la dernière heure de ce direct qui sera placé sous le signe de la détente et du plaisir pour terminer la journée en beauté, le plaisir de lire avec les yeux vont des oreilles et le plaisir de jouer avec J'aime beaucoup ce que vous dites. Mais tout de suite, Clément vous parle.